Mais est-ce que vous vous rappelez des noms qu'on a regardés la dernière fois? On a dit d'abord des noms qu'on donnait des non-croyants aux croyants. Ils les appelaient quoi? Voilà, chrétien était un. Galiléen, Nazaréen, très bien, c'est trois. Et on a dit, il y a trois occurrences du mot chrétien. Et tous sont dans des contextes qui peuvent être, c'est pas explicite, mais qui peuvent être péjoratifs. Hein, donc c'est dans la ville d'Antioche que les non-chrétiens appellent les croyants des chrétiens. C'est le roi Agrippa qui dit à Paul, bah, tu me persuades presque de devenir chrétien, mais ce n'est pas un nom que Paul utilise de lui-même. Donc même s'il est sincère en disant, le nom quand même qu'il choisit, c'est le nom qu'utilisent les autres en parlant de ce groupe. Et puis Pierre dit, eh bien si, il ne faut pas souffrir comme un voleur, etc. Mais si vous souffrez comme chrétien, eh bien réjouissez dans ce nom. Et certainement c'était ça, puisque c'est inspiré par l'Esprit qui a changé le regard même des chrétiens face à ce nom. Ils ont commencé à se réjouir de ce nom et maintenant c'est le nom utilisé le plus souvent des croyants en Jésus-Christ. Voilà, et puis on a vu les chrétiens en tant que groupe, l'Église, l'Assemblée, le troupeau. Et ce soir, juste quelques mots, quelques titres de comment les chrétiens s'appelaient en tant qu'individus. Avant de se dire chrétien, ils se disaient quoi? Et je pense que c'est important. Quelqu'un m'a demandé quelle est l'application de ces choses. C'est une très très bonne question. Et ça m'a fait réfléchir. Et je crois que l'application pour nous, c'est que ces choses, ces titres même, doivent former notre image de nous-mêmes, hein, notre image de soi en Christ. Et ça, c'est des titres que j'entends très rarement utiliser par des chrétiens en parlant d'eux-mêmes, et que j'avoue, j'utilise très rarement, même moi. Mais le premier se trouve en Actes 6, verset 1. Jésus s'en servait de ce titre. On va dire que c'était vraiment le premier. Et si on voulait compter le nombre de fois que c'est utilisé, c'est probablement le gagnant. Alors, c'est quoi? Dites-le si vous l'avez trouvé. Voilà, disciple. Disciple. Donc, vous voyez, par exemple, Actes 6, 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Donc, Luc identifie les croyants, les chrétiens, comme des disciples. Regardez verset 2. Les douze convoquèrent la multitude, c'est le mot que nous avons regardé la semaine dernière, des disciples. Hein, ils forment une assemblée, mais ce sont des disciples. Regardez le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte 9, 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Elle fait partie des disciples, elle se trouve parmi les disciples. Juste encore un exemple, acte 11, 26, l'ayant trouvée, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais Luc les appelle toujours les disciples. Hein. On appelait les disciples les chrétiens. Mais pour lui, on voit que le terme de choix pour Luc, c'est de simplement dire disciples. Alors, est-ce que si quelqu'un vous a demandé qui vous êtes chrétien, est-ce que vous avez pensé à dire je suis disciple de Jésus-Christ. Je ne sais pas, hein, peut-être vous l'avez fait déjà. Sinon, je vous encourage à se servir de cela. C'est un terme biblique. Et le problème avec certains terme ou titre, c'est qu'ils peuvent, à travers le champ, à travers le temps, même changer de sens. Par exemple, une crèche. Au début, une crèche, son sens premier était quoi? Un mangeoir, pas plus. Et puis, on l'a associé à la naissance de Christ. Et après, c'est devenu quoi? Oui, mais oui. Oui, un lieu. Et puis aujourd'hui, on amène ses enfants à la crèche. On disait, j'amène mes enfants à la mangeoire. Mais on voit que c'était associé après à Jésus. Et puis, c'était associé à des modèles qui représentent la naissance de Jésus. Et puis, on associe à des enfants. Et puis, maintenant, on dit, c'est la crèche. Et aujourd'hui, bon, tout le monde connaît la crèche. Mais ils ne vont pas forcément penser ni à Jésus-Christ, ni à sa naissance, ni à la mangeoire. Et donc, voilà, on est chrétien. OK, les gens cherchent. Oui, donc, Sheila disait, bon, je suis évangélique. Voilà, on essaye d'expliquer. On peut dire, oui, je suis disciple de Jésus-Christ. Bon, malheureusement, il y a tous les mots, hein, comme témoin, de même disciple. Il y a une fausse église qui se disent disciples de Christ. Mais ça même, c'est un terme biblique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire disciple? Vas-y, Kaina.
Celui qui suit le maître.
OK. Très bien, celui qui suit le maître. Oui.
C'est la discipline.
Il y a le mot discipline. D'accord. Oui, c'est vrai. Quelle est la différence, je vais poser, quelle est la différence entre un disciple et un élève, ou un disciple, un étudiant?
Un disciple, il passe du temps
privilégié
avec son maître.
D'accord. Il dit qu'un disciple passe du temps privilégié avec le maître. Vas-y, Geneviève. Le maître transmet au disciple ses connaissances. Oui, d'accord. Oui, Viviane.
Le disciple est censé imiter le maître.
OK. Le disciple est censé imiter le maître en toute chose. Oui, Kaina, c'est ce que tu allais dire?
Copie conforme de ce que le maître fait.
D'accord.
Il essaye,
d'accord. Oui. Oui, c'est le désir. Oui, Doris? Oui. Le but, c'est qu'il devienne comme son maître. Et Jésus en parle de cela. Oui. Autre pensée? À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de maîtres ou de rabbis ou rabbins qui avaient des disciples. Jean aussi avait des disciples. Mais il y avait d'autres aussi. Les pharisiens avaient des disciples. Et il y avait ces deux idées. Hein. Il y avait une question d'autorité. Il était vraiment le maître. Bon, aujourd'hui, on dit maître, maîtresse. Mais si vous allez dans nos écoles, vous allez voir que ça ne veut pas dire grand-chose quant à l'autorité qu'a cette personne devant les élèves, malheureusement. Mais je vous assure qu'à l'époque, même si on était adulte, hein, l'idée de majeur ou enfin, mineur n'était pas vraiment en vogue, il restait le maître. Et on était redevable complètement envers cette personne. Mais en contrepartie, ce n'était pas un esclave, dans ce sens, qui faisait les choses pour le maître et puis on le renvoyait. Non, il y avait un investissement du part du maître, comme vous avez dit, dans le disciple, pour lui apprendre en relation. Donc c'est une question de autorité et question de relation, et puis question d'imitation aussi, et de cette transmission de savoir-faire. Et donc, Jésus est notre maître, et nous sommes encore des disciples. Hein, il a dit, Jésus, après, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples à la fin de Matthieu? Allez dans toutes les nations et faites des disciples, les baptisant. Il faut baptiser les disciples. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il faut les enseigner, ces disciples, à faire quoi? Oui, mais quel est le verbe? À observer, oui, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple, il apprend à observer. Il apprend plus, c'est pas simplement connaître, hein, pour avoir une note. Il apprend à observer dans sa pratique. Donc, nous devons prier même le Seigneur Jésus comme notre maître. Et nous devons le prier aussi de nous aider à être des disciples qui le suivent, qui observent tout ce qu'il nous dit. Et on se lève en tant que ses disciples. Qu'est-ce que Jésus a pour moi à apprendre encore aujourd'hui? S'il nous laisse encore sur la terre, c'est parce qu'il veut encore nous apprendre des choses. Sinon, c'est l'heure, il va nous prendre au ciel. Mais il continue à nous sanctifier et nous apprendre tous les jours. Donc, pensons à nous-mêmes comme des disciples. Les disciples de Jésus-Christ. Il est vraiment notre maître. Et puis, il y a au moins 7 auteurs dans le Nouveau Testament qui utilisent un autre titre pour eux-mêmes en parlant de leur relation avec Christ. Et c'est peut-être l'appellation de choix pour l'apôtre Paul. Et c'est quoi? Ah, on va y rêver ça, oui, c'est une bonne... Mais Paul dit, quand il parle de lui-même, je ne sais pas, il appelle les autres saints, ben, il appelle lui-même saint, mais surtout en parlant de lui-même.
Serviteur.
Voilà, très bien.
Prisonnier aussi.
Prisonnier, oui.
Prisonnier de Christ.
Oui, oui. On reviendra peut-être plus tard à celui-là. Mais ça faisait vraiment référence à ces circonstances. Mais en prison, en dehors de prison, il demeurait esclave de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que dans nos traductions, nous lisons surtout le mot « serviteur ». Et depuis beaucoup d'années même, hein, les traducteurs ont se sont... Il y avait eu des débats, vous pouvez lire, hein. Qu'est-ce qu'il faut utiliser le mot esclave ou le mot serviteur? Et par crainte que le mot esclave allait être mal compris, ils se sont le plus souvent penchés vers le mot serviteur. Mais c'est le mot doulos, c'est le mot pour esclave. Alors, c'est vrai que ce n'était pas forcément l'esclave que nous connaissons quand nous pensons à la traite d'esclaves. C'est une autre forme d'esclavage dans ce jour, mais c'était un mot très courant. Et si on allait dans certaines villes comme Rome, ils disaient que la moitié de la population était esclave. Donc c'était des gens qu'on voyait tous les jours. Et il y avait des esclaves qui étaient plus riches que d'autres, des esclaves qui avaient des positions plus importantes que d'autres. Hein, vous pouvez penser à Joseph. Dans la maison de Potiphar, il arrive à un certain niveau où il a une autorité même sur toute la maison, mais il demeure quand même esclave. Et Paul aime bien ce mot. Par exemple, hein, je voulais juste vous lire la première phrase de Romains. Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Galates 1:10. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur ou plutôt esclave de Dieu. Philippiens 1:1. Paul et Timothée, et ce mot? Esclave ou serviteur de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ. Colossiens, ça c'est Paul, donc on a Timothée. On peut ajouter aussi Épaphras. Colossiens 4:12, qui est des vôtres, vous salue, esclave de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. 2 Timothée 2:22, oh, il ne faut pas qu'un serviteur ou esclave du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Tite, Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Jacques 1, donc ça c'est un autre... auteur, Jacques, qui était le demi-frère, père de Jésus, mais il se présente comme esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors imaginez, vous qui avez un frère, et vous êtes prêt à dire, je suis son esclave, je suis l'esclave de mon grand frère. On voit plus que l'humilité de Jacques, on voit la grandeur de Jésus-Christ, je crois, dans cela. Qu'il est forcé face à la grandeur de Christ de donner sa vie comme esclave à Christ. Et puis il y a Pierre, je crois que ça fait 6, Simon-Pierre, c'est 2 Pierre 1-1, Simon-Pierre, lui l'apôtre, mais il se présente comme esclave et apôtre de Jésus-Christ. Et puis Jude, aussi un demi-frère, Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. Voilà, c'est son titre. Hein, vous voulez sa carte de visite, Jude, esclave de Jésus-Christ. Et puis, un dernier, c'est Jean, Apocalypse 1-1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ou esclaves les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son esclave Jean. Alors, Moïse est appelé l'esclave de Dieu en Apocalypse 15, verset 3, traduit encore serviteur. Et donc, c'est un titre d'honneur aussi d'être l'esclave de Jésus. C'est comme si quand on travaille pour quelqu'un de grand, même si on est chauffeur, si on était chauffeur pour quelqu'un de très connu, ou même garde-corps de quelqu'un de très connu, on va avoir une certaine fierté, parce qu'il y a un certain rapprochement à cette personne. Et donc il y a une gloire d'être l'esclave de Jésus-Christ. Alors, quand vous vous levez demain matin, réfléchissez à cela. Je suis esclave de Jésus-Christ. Ça va avoir un effet sur votre mentalité. Parce qu'après, quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, on s'énerve. Pourquoi ? Parce qu'on a notre planning. Ben non, ce n'est pas mon planning. Je suis esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire que je lui donne toute l'autorité. Sur ce que je fais, mais aussi sur ce que je crois. Dans le monde, je suis presque certain, vous allez avoir des questions comme « Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ou de ce phénomène ou de cette question par rapport à la société, etc. » Et puis on dit, ben moi je pense que. Mais je trouve très frappant que quand Luther dans un épisode très très connu, hein, quand il a été amené devant les juges catholiques, on lui a demandé s'il était prêt à renoncer à ces choses qu'il a écrites, il a dit en somme à la fin, je peux pas. Parce que ma conscience est esclave à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a ressenti. Je ne peux pas. Ma conscience est esclave à la parole de Dieu. Et donc, sur ces questions même d'homosexualité qui a été soulevée, les questions de moralité, d'avortement, etc., la famille, tout, est-ce que nous sommes prêts à dire, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je pense qui est important. Moi, je peux avoir une opinion comme les autres. En soi-même, mon opinion n'a pas plus de valeur que la vôtre ou qui que ce soit. Mais je dois vous dire franchement que ma conscience est esclave à la parole de Dieu. Et donc ce qu'elle dit, je peux pas le contredire. Et on soumet donc pas seulement nos actions, mais même nos croyances à sa parole. Et nous nous identifions pleinement à lui. Et en fait, moi, je crois ce que je crois concernant la vie, la famille, la moralité. Pas parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était d'accord avec moi. J'ai lu la Bible, j'ai dit, tiens, Dieu, il est d'accord avec moi. C'est, je le crois parce que Dieu le dit. Et lui, il a raison. Donc, je dois m'accorder à ce qu'il dit. Et ça peut, dans nos conversations, ça peut aider à remettre le spot, la lumière, sur ce que lui croit, je crois. Hein. Imaginez, on est trois dans la pièce, lui croit ça, mais moi, je crois ça. Moi, je crois la Bible. Mais si on peut, avec l'aide du Seigneur, changer la conversation, en fait, c'est pas ce que je crois, c'est ce que Dieu dit. Et moi, je suis simplement esclave à cela. Ma conscience est esclave à la parole de Dieu. Et ça pourrait amener la conversation même vers la parole de Dieu et vers ce qu'il a pour nous. Voilà, on ne va pas aller plus loin à cause du temps. Mais je crois qu'il y a beaucoup de méditation, même juste dans ces deux titres. C'est quoi les deux titres encore ? Disciple et esclave de Jésus-Christ. Disciple de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ.